création on air.
On air.
On air. Creation on air.
Au pied des Préalpes provençales, au nord de Draguignan, le plateau de Canjuers a été réquisitionné par l'armée. Le plus grand champ de manœuvre d'Europe occidentale est occupé par des militaires, des loups, des moutons et des villages fantômes, témoins des expropriations des années 70. Quand le chant de l'alouette remplaçait les mitraillettes, Canjuers, un documentaire de Céline Laurence, réalisation Gilles Mardi-Rossian.
Au plateau steppique. Massif karstique. Canjuers.
Là, en fait, on est dans une espèce de micro-vallée qui prend les deux vents. À la fois le Mistral, qui n'a pas trop soufflé cette année, mais d'habitude, ça souffle bien. Et ce vent d'est qu'on a en ce moment, là, qui s'engouffre de l'autre côté. On est vraiment dans l'axe Mistral-Vent d'Est. Et encore, là, c'est rien, parce que dans la journée, quand il pleuvait, là, c'était vraiment tempétueux.
43 degrés, 38, 49, nord. 6 degrés, 27, 56, est.
Nous, on voit que les flancs. Il y a des super couchers de soleil, là, souvent. Avec des couleurs qui tapent vraiment sur le côté, là.
La pièce. Gris. Bleu.
C'est beau, je trouve ça hyper beau. Parce que la nature a repris le dessus. Après, qui a effondré? Est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est... Ouais, dès qu'il n'y a plus de toit, ça va très vite. Hein.
Mistral, du nord au sud, golfe de Gênes, d'est en ouest.
T'as même des arbres qui poussent à l'intérieur. Là, t'as un figuier. Pourtant, les figuiers, c'est rare ici, mais comme il doit être abrité par les murs. Et alors, ce que j'aime bien aussi dans ces ruines, là, c'est ce que tu vois là sur la gauche.
Doline.
T'as un reste de placard. Tu vois.
Avant.
Alors là, on commence à voir tout le pays de Koms. Vers les gorges là-bas. Et donc vers le camp, de ce côté et de ce côté.
Canjuers.
Donc, vers là-bas, on le voit pas encore, mais il y a le sommet des gorges, le mur de Chaniers.
1930 mètres.
Le nuage est en train d'entourer encore le sommet du Robion.
1350 mètres.
Et puis vers là-bas, donc, on a la Palue, avec Barbin.
1561 mètres.
Plan de Canjuers. Nous, on était ici, attends un peu. Alors, André de Ruyès, montagne de Bourgeois. Vers là-bas, on a le col du Bellum.
915 mètres.
Là, on commence à avoir des parties du Malaï par là-bas.
1424 mètres.
Ah oui, plein de lagnes, voilà. Et tu vois ce croisement ici. Nous, on était par ici. Et voilà, vive. Là, on était là. Tu vois? Complètement dans la tête, dans les nuages, il y a le sommet du Var, le mont Lachaince.
1715 mètres.
Le sommet qui est le Grand Bruisse. Et puis là, il y a Kumbasque en face, qui nous empêche de voir le sommet du camp, qui est le Margeuse.
1577 mètres.
Château de Lagne. Ça, c'est la ferme où on était. C'est délimité. Tu vois, vraiment, le plan de Canjuers, c'est ça. Ça va jusqu'à presque à Iguine. Et nous, les serrières de Lagne, je crois que c'était 1108 mètres, je crois. Ah non, 1111.
Le fameux camp. Le plus grand camp militaire d'Europe.
Normalement, ce matin, il me semble que les canons vont y aller, là.
Domaine militaire, défense d'entrée.
Ça atterrit juste en face.
Pancarte 182, tir en cours, danger de mort.
On est juste en face du camp. Réceptacle de tir en face, là, dans le bois d'Hue et sur l'Avelan. Petite gorge de l'Artubie. Vous voyez des bandes claires, c'est des pare-feux, pour éviter que lorsque les explosifs descendent, enfin tombent, s'il y a le feu, ça s'arrête au niveau du... s'arrête au niveau du camp et que ça va pas dans les communes avoisinantes. En face, bon, vous avez le sommet de la Souche. Vous voyez peut-être là-bas la baraque d'observation des tirs qui se font juste en face. Il y a une tache bleue claire. Donc si les tirs tombent ce matin, il y en aura certainement là, juste en face. Et quand c'est très violent, les vitres de Coms vibrent.
Camp de Cangers. Terrain militaire,
vous voyez
tir
les
permanent.
Petites pancartes blanches régulièrement.
Interdiction de s'écarter de la route.
Voilà, elles indiquent l'entrée du camp. Vous en avez là. Aujourd'hui, ils en ont mis partout. Cangers, c'est un lieu de paradoxe total. C'est un camp militaire, mais en même temps, il y a des apiculteurs, des bergers, des bouscatiers, enfin des boucherons qui y sont très très souvent. C'est un lieu qui est à la fois fermé et ouvert.
Voilà. Après, ça va être plus facile.
Mais si tu vas à Cangers là-bas, il faut aller au camp, demander la permission pour aller te promener dans le coin. Et voilà, tu dis que tu habitais avant là et que tes grands-parents habitaient. Et que tu aimerais bien venir encore un peu visiter le coin.
Donc ça y est, à partir de là, on est rentré dans la zone interdite.
Camp de tir pour infanterie, artillerie et blindés. Tir d'exercice de lance-roquettes multi-tigres. FGM 1 et 2. Hélicoptère, ultima véhicule blindé, combat d'infanterie, missiles, tanks, fusil de précision, tir d'obus, HK-417, FRFD, lance-grenade, fusil de précision, calibre 12,7 mm, létalité renforcée.
C'est bien, du coup, là on est à couvert, ils risquent pas de nous voir. Bah, après, ils ont. Là, en ce moment, ils tirent pas mal parce qu'il repleut, donc ils attendent la pluie là après l'été pour retirer. Mais sinon, c'est assez discret, on les entend pas trop.
Utilisation du terrain. 75 000 obus. Terrain classique de manœuvre. 1 000 missiles et d'instruction. 1 600 000 projectiles de tout calibre française et étrangère.
Et ça, c'est très joli quand c'est frais, mais alors quand c'est sec, c'est piquant, ça en peut plus. C'est un bleu violacé très beau. C'est beau, ces mousses, là. Ça aussi, c'est rare, hein, parce que c'est tellement sec dans le coin d'avoir des mousses aussi vertes. Après, qui a effondré? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est les bombardements? Je sais pas trop. Mais... est-ce que la nature a repris le dessus?
Mais la campagne doit être par terre, toute démolie. L'armée. Ils n'ont plus rien fait. Ils ont fait des tirs, ils ont fait tomber même là-bas.
Et c'est vrai que ça arrive qu'ils tirent en pleine nuit. Donc là, tu... mais c'est vrai que la nuit, c'est encore une autre ambiance.
Une nuit dans la chambre, les hélicoptères militaires rasent notre lit. Ma main tressaille, ta peau tremble. J'interromps ma caresse, je me lève et ferme la fenêtre.
Le soir du mariage, quand j'ai marié, je suis venue rester à Guyenne. 49. Oh ben, il y avait des camps militaires, il y avait des camps, ça s'appelle, de ces gros engins. Ils descendaient des ribes qui avaient en bas dedans, des tames. Ils paraissaient un peu la tête et puis ils se cachaient dedans, tu vois.
Un jour de printemps, à la sortie de la crèche, les chars sont là. Tanqués.
Tu te disais, quand ils arrivent en bas dans la face, n'y a plus de guns dedans. Mais non, ils étaient tous vivants, tous bien, les militaires. Il y avait le temps noir là-bas au bout. Ils passaient derrière le temps noir. Un jour, j'étendais du linge, il y en a un qui arrivait. Je faisais ma carme, ce gros engin. Putain, j'ai dit, tu vas me porter. Je me suis mise sur le bord. Ils ont passé en bas, ils ont fait arriver. Putain, je me rappelle toujours.
Mon fils est dans mes bras.
Et en bas, les militaires qui avaient dedans, ils ont sorti, il y avait une espèce de chapeau comme ça, ils ont sorti, ils ont fait... Ils m'ont fait signe qu'ils avaient eu chaud. Parce qu'ils avaient fait la ramberlette.
Première définition balbutiante du mot « guerre ».
Comme quand s'il y avait eu la guerre. Ils ont fait comme s'il y avait eu la guerre. Des exercices, voilà.
Des fois, quand ils tirent les mortiers, là, ça fait résonner les vitres de la maison.
Ce combat, ils font des ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, des exercices avec des fausses mitraillettes.
Des ta-ta-ta-ta-ta, plusieurs coups à répétition, là, très sec, très fort. Ta-ta-ta-ta, je sais pas, mitraillettes ou...
Préfecture du Var, champ de tir et de manœuvre de Canjuers.
Même des petites grenades d'exercice.
Choix du terrain.
Aucun terrain en France ne remplit les conditions de celui de Canjuers.
Par contre, les tirs, c'est toujours dans l'axe... Est-Ouest, parce que Canjuers est orienté Est-Ouest.
Permettant le tir d'engin à moyenne portée. Conditions climatiques exceptionnelles, pauvreté relative de la région, faible densité démographique, dépopulation importante.
Lumière rouge, clignotante, dans le ciel étoilé. Fracas des pales en toute saison, au-dessus des gorges. Le village tremble, chaque fois... Je retiens ma respiration.
Simplement fait arrêter là pour que vous voyez ce qu'est de façon générale l'ensemble du camp de Canjuers, c'est-à-dire des collines pas très hautes, des bois beaucoup plus que ce qu'il y avait il y a 100 ans évidemment, des étendues très caillouteuses avec beaucoup de clapiers et des fonds qui étaient très fertiles parce qu'il y a de la latérite, l'écoulement amenait de la bonne terre et sur laquelle peut pousser la fétucovine. Alors fétucovine, c'est une herbe qui est extrêmement bonne pour les brebis.
Ah, t'as un culot de chien.
Champ de tir de l'ail, tir mobile. Champ de tir des amandiers, tir fixe.
Le buechtel.
Les condamnés,
oui, ça la grande nouguière,
Chauve-Chan,
les Blaches,
Collet de l'Aigle, Saint-Louis,
la Glacière,
Colline de Stel,
Collet des Nouilles,
Aveng de Chardon,
Champ de tir de Correillas, Champ de tir de la Bussière, Missile longue portée, Réceptacle pour les tirs d'artillerie, Manœuvre interarmes, Bassé, Préguillon, tir d'exercice de lance roquette multiple. Serrière de Lagne, Clos de Tchouchoun.
Serrière de Lagne. Serrière de Lagne.
Tu sais comment elle s'appelle celle-là, Romain ? Malagneux. Ouais, c'est ça. Enfin, je respecte pas forcément l'interdiction à partir du moment où il y a des gens qui ont habité ici, qui a du bâti. Bah, j'ai envie de venir voir, quoi. Voir les traces de ville et... Surtout que ça reste des ruines très austères, très... Je pense qu'ils vivaient vraiment de pas grand-chose, hein. Sûrement beaucoup d'élevage. puis beaucoup d'entraide, je pense aussi, entre les différentes fermes. Parce que, bon, là, on va en voir deux, mais tout le long, en fait, il y en a un. Mais c'est vrai que ces fermes, je vais les chercher un peu.
Au côté du camp, il y avait la cousine, là, carrément au camp, il y avait la cousine qui avait aussi un troupeau, à Mathurine, puisque le camp, il était entre Mathurine. Mathurine, c'était le nom de la campagne. Et après, la première campagne après Mathurine, c'était Préguillain. Les deux oncles, il y avait Guémard, tonton Hubert.
Yvette Bernard après Préguillain. Hubert Bernard à Lagne.
Trois et Bernard. Nathalie 4. L'autre, Marie ça fait 5. Navarre 6. Léonie 7. Le Périmont 8. À côté 9. Sauvachane 10, Chardin 11, Acoms 12, Octave 13, Curos 14,
Michel Latil au logis
16. On était 16 voisins déjà là, mais combien il y en a eu d'expropriés, je ne me rappelle plus.
Il y avait la Bastille de Neuve, après il y avait la Nouguerre, il y avait Bassé, il y avait les Anges, la Médecine.
C'était tout habité, ça.
Eh ouais, c'était tout déjà. Et...
Toutes les campagnes étaient habitées, plus ou moins avec 200-300 mètres, puis ils étaient dans ces campagnes de calcaire.
Ah, bien sûr.
On s'est entraîné à trier au sulfatage, à marquer le marquage des moutons. Tu t'es entraîné quand il fallait trier pour partir à la montagne ou la baignade.
Dans les fermes, on savait tous ce que faisait ce que faisait l'homme. On connaissait tout.
Une solidarité.
Voilà. Mais on savait tout, rien qu'en voyant, parce que c'était comme ça.
La Biouchou, les Blaches, ah ben, ça il y avait une bergerie aux Blaches, et ça c'est le cabaret neuf, tu vois. Et alors, tu vois, eux j'étais ici, et nous là, on descendait par cette route, on prenait celle-là allait à Brignan, et celle-là, à Coms, tu vois Saint-Bayon. Et de l'autre côté, on descendait à Vérignon et Ops. Et ça, c'est la verrerie. Le pousser au fond des pieds. Ça fait deux parties de Parisien.
La campagne de Parisien, la voilà. Devant toi. Et derrière toi, là, t'as la photo des moutons. Toujours là, là. Alain qui est tout pitchouné comme quoi. Et ça, il va plus loin dans les brebis, juste, il paraît. Voilà. Il faut regarder les brebis.
La commune. C'était la bête de pays qui était née là. Ouais. Qui était pas bien faite, pas bien jolie, mais que la viande était aussi bonne que celle de maintenant. Et quelques chèvres pour ambuler.
Les chèvres, j'allais là-bas. Regardez, je traçais les chèvres, je me régalais. J'en avais une grosse.
Un jour, Pépé, il me dit, mets tes cochons d'Inde, tu les mets là-bas à la chèvrerie. Alors, on les a mis avec les chèvres, et les cochons d'Inde se sont multipliés. Il y avait des cochons d'Inde, il y en avait. Alors, t'entendais... Comme une de belles mannes, les chevreuils, tout. C'était une vie infernale.
On avait une vache. On avait un porcillon, ce qu'on appelle le porcillon. Et il y avait deux cochons dedans. Je soignais les cochons. Et ils faisaient bien gras. On avait des chevaux, une jument. Un poulain, il courait, il sautait. Il faisait un couillon. On avait beaucoup de chiens. Il y avait des poules, j'avais des lapins. Je donnais du thym au lapin. Le lapin, quand tu le mangeais, il était bon. Hein. Ça, c'est le pigeonnier. Ici, à droite. Parce qu'on avait des pigeons...
Et à côté, il y avait le poulailler. Le poulailler, il a souvent été visité. Le maître Goupil est souvent venu visiter cette deuxième forêt. Goupil, c'est le renard. Il venait, il descendait de dessus, là-haut, de dessus les buis. Et avec les pattes, cette espèce de cochon, gratte, gratte, gratte. Il avait ouvert le poulailler par l'arrière. Et là, il avait giclé toutes les poules. 32 la première fois. 32 poules. Pignes.
La première chose, ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé, c'est qu'il n'y avait pas d'eau en forêt, quoi. pas de source, pas de ruisseau, pas de... Oui, c'est... C'est la pierre, c'est du quartz, donc c'est du calcaire qui est creux, qui est caverneux. Il y a des ressources souterraines profondes, mais il n'y a pas d'eau en surface.
La bruyère.
À part quelques rares ressources comme Rué, comme le Villard, il y en a peu, hein. Il y en a très peu.
Grand Avant.
Les eaux de Canjuère, d'est en ouest, elles sortent toutes dessous.
Trou des Corneilles.
Et qui sortent mais des sources de gros débit, des sources
Avant
de qualité. Et c'est d'eau qui vient de Canjuère.
Avant de la forêt.
Parce
de
que Canjuère est un gruyère.
Avant de Claude Fayoun.
Mais toutes les eaux d'ici, elles ne profitent pas aux gens d'ici.
Avant Maria. Avant de la Nouguière.
Et la plus, 90% des fermes n'avaient pas une goutte d'eau. Uniquement quelquefois des puits, mais qui étaient des puits citernes. C'est-à-dire des puits qui étaient en partie alimentés par une petite nappe souterraine peu profonde et en partie complétée par les toitures.
Source de Rue.
Avant du plan de
Source du Villard. Avant de Roumégas. Puits couvert de Bassé. Puits couvert des Anges. Puits de Malagneux.
Tu vois les branches, comment elles tournent? Ça, c'est typique de l'amandier. Il vrille sur lui-même. Et près d'une ferme, enfin près des habitations, les amandiers, toujours. Tu les trouves très peu en sauvage. Non, et puis, si tu veux, pour moi, ces ruines-là, ils s'en servent de plants. Là, un deuxième puits. Mais rien que ça, moi ça me... Deux puits sur une même ferme.
Oh, vous avez vu en arrivant le camp d'entraînement pour l'Afghanistan et d'autres pays orientaux. Bon, il y a un contraste très fort. Dessous, il y a une magnifique, en pierre taillée, donc en calcaire gris taillé, magnifique citerne. Vous êtes contre? Si vous craignez pas d'un peu vous graffiner, ben vous verrez, c'est aussi beau que cette fontaine. Bon, malheureusement, elle coulait il y a encore 30 ans, mais bon, maintenant, je sais pas, ils ont dû capter l'eau pour alimenter le camp afghan.
Tandis que dans les fermes de Canjuère, le petit camp Canjuère, il y a tous les citernes. Et qu'après, vous avez déjà des puits. Les campagnes qui étaient vraiment vivables pour faire le levage.
Il y avait des puits, mais il n'y avait pas assez d'eau, puisqu'il fallait aller chercher l'eau. À 12 km de tous les puits, il ne suffisait pas à apporter de l'eau pour vivre et pour nourrir les animaux. Puisque papa, il allait avec le tracteur à Saint-Bayon. À Saint-Bayon, il faisait 12 km. Il allait chercher l'eau à Saint-Bayon. Et après, quand papa n'est plus allé à l'eau, c'est Gilbert qui, à l'âge de 12 ans, prenait le tracteur et allait à Saint-Bayon.
Thank you.
les hauts de Moissac, on nous survole. De ma place de conductrice, je peux voir le visage de celui qui pilote. Les branches brillent dans la tempête, une sirène se déclenche. À l'arrière, mon fils a peur. La semaine suivante, 3 morts dans une collision du côté de Carcès.
En 1964, on a su qu'on allait être exproprié pour l'installation du camp militaire. Ils ont commencé à faire les enquêtes, donc ils passaient pour faire
1955.
Une étude sur
mise en étude d'un projet de 35 000 hectares.
Avant que ça murmurait, ça, il y a un camp militaire, on va se
lancement
faire.
Du
bon,
projet.
Et puis un beau jour, bon, il a passé le décret, et bon, du jour au lendemain, il faut que tu déménages. Il faut que tu déménages, voilà. Tout simple et tout court.
Ah lui, regarde un peu.
1964. Déclaration d'utilité publique.
Ordonnance de descente sur le lieu. Il y a le décret d'expropriation. Ils viennent te voir. Là aussi, c'est du marchandage. Ils te font une offre. Ils ne te font rien pour que tu t'en ailles.
Ça, c'est...
C'était jeune, ça. Ouais. Ouais.
1969, début des travaux.
C'est lui qui tenait la,
oui.
La banderole.
Oui. Nous sommes ici pour la sueur de nos aïeux. Nous ne repartirons que par la force de mitraillette ou de baïonnette.
Jamais il y avait eu autant de monde.
Jamais.
Avec tout ce monde, jamais on ne partira. Ça va nous aider, voilà. Ça. Voilà. Alors on disait 3000 personnes, 4000, ça paraissait... fou, quoi.
C'était...
Et c'est vrai que ça avait laissé un espoir. Peut-être Brevet serait extrait de
1970, création de la compagnie du camp.
Et tu vois le noyer. Ça, c'est la route. Et ça, c'est la route. On a barré les routes, je te dis. On a essayé. À Brevet, on avait fait un Michou monstre. On avait mis, coupé un noyer. C'est
1971.
Dommage. On l'avait mis au bord de la route. Les gens ne pouvaient pas passer.
Création du bataillon mixte de génie de légion.
Tu disais, ma foi, ça va peut-être faire quelque chose, mais ça n'a rien fait du tout. Hein. Bon, mais après, on en a refait un peu moins. Il n'y a plus des... Et puis après, on a refait une autre. Alors,
1974, voilà, fin des expropriations.
Ils auraient pu nous soutenir. Plus personne n'est venu nous soutenir.
Bien qu'il y ait eu des manifestations, les agriculteurs et les éleveurs... c'était un peu réuni pour lutter contre l'installation de ce camp militaire. Comme c'était utilité publique et qu'on n'était pas soutenu par les propriétaires, parce que Pépé Jeannot, il n'était que fermier. Si le propriétaire a signé, le locataire, il ne reste qu'une chose, c'est de partir.
De toute façon, quand l'État décide de quelque chose, tu ne peux rien. Hein.
1976. Installation de l'école d'application de l'artillerie à Draguignan et du RA à Canjuers.
En même temps, le déracinement humain, ça n'intéressait personne. Hein.
Mais le village de Brevet, c'est tout le village qui est parti là.
Mais on était nés là, on y mourra et c'est pas possible autrement, quoi. Voilà, c'était
dur à vivre de dire tu te trouves déraciné.
Oui, supprimer tant de familles.
Tu restes à nu, t'es cru, hein, tout simple et tout court. Pourquoi ma mère est morte, c'est pas pour rien. Hein. Elle s'est lui ruinée. Ça a emporté. Hein. Tu regardes Manassas, oui, qui est parti à la chose, il est mort lui aussi. Hein.
Oui.
Eh bien, il est mort lui aussi.
Tout ça, ça te dérange, ça te manque, ça... Puis...
C'est même dommage que ça serve que... voilà, oui. Ça sert aux obus et...
C'est là où tu es né, c'est les quatre buissons où tu t'es assise un jour où tu avais très froid, où tu avais envie de rêver, même si on rêvait pas beaucoup, il y avait quand même des rêves de... Je m'endormais sous ce chêne, là, au coin du puits.
1998.
Là. Tu vois des militaires à la place de te voir, toi, avec tes copains, là, à faire trempette dans la petite nappe d'eau qu'il y avait de rien du tout.
Création de la garnison de Canjuers.
Sur l'air, là-haut, entre quatre balles de fouet. Voilà, tu vas plus pouvoir aller courir te cacher dans le grenier. Tu n'as plus aucun repère, tu n'as plus rien.
Régiment d'infanterie.
Il y avait guère d'herbe, mais le peu qu'il y avait.
Régiment de groupement de camp.
Très,
régiment
très
de chasseurs d'Afrique.
Puis
régiment
là.
D'artillerie de marine.
On y était, on ne voulait pas partir. Voilà.
Détachement du régiment de transmission, centre d'instruction des missiles.
Donc l'armée, ça nous a marqué. Ça nous a énormément marqué.
J'attendais la pluie. Ça ne tombe pas.
Mais sinon, quand tu regardes la végétation, tu vois bien que c'est tout sec, sec, sec. Et régulièrement, dans l'été, alors que j'attends la pluie, je vois les orages qui passent.
Les
c'est,
orages.
C'est pénible, parce que vraiment, on voit les orages, mais ça tombe pas, quoi. Donc, tu vois, par exemple, un buisson comme ça, là, selon ce qui tire dedans, ça prend feu tout de suite. Une étincelle, ça prend feu. Tu vois des traces, hein, du coup, de brûlé.
Le genévrier.
Mais bon, ça a quelques temps, hein. Tu vois que c'est poli, que c'est pas... Ah bah, c'est le feu qui est passé par là. Hein. À moins que ce soit la foudre, mais bon, vu l'activité dans le coin, je pense que... probablement d'origine militaire.
Feu de foudre.
Feu de foudre.
Feu de pâturage. Feu militaire. Contre-feu. Feu de pâturage.
Écobuage.
Contre-feu.
Et là, ça tirait, ça tirait. Tous les jours... Il n'y avait pas plu l'été, c'était une sécheresse partout, partout. Le jour où on est revenu, il y avait un vent, mais il peut y en avoir terriblement. C'est parti de après Vérignon, là, ça tirait, ça tirait, et le feu a descendu. C'était vert, mais c'était des genévriers, des genêts, des buis, tous les jours. Et le feu, ben, on a commencé à voir de la fumée d'assez loin, enfin dans les villages. De dizaines de militaires qui attendaient. Ça brûle, mais ils essayaient bien de mettre un peu d'eau sur... Mais en fait, ils ont tapé avec les genêts sur le feu, de façon à ce que le feu passe derrière les maisons. Mais en fait, le fameux camp, le plus grand camp militaire d'Europe, ça tirait. Toute la colline était noire de charbon, plus une feuille, plus un brin d'herbe, plus une feuille, plus un brin d'herbe. Tu voyais ces brasiers d'un buisson à l'autre, ça brûle. Tu disais, bah oui, ça brûle, mais ça restait longtemps, noir.
Plus une feuille,
noir.
Plus un brin d'herbe.
Lui aussi, il est beau. Il s'est ouvert en étoile.
Le feu en lui-même, c'est le plus beau régénérateur de pâturage qu'on puisse imaginer.
Et de temps en temps, quand tu coupes, quand tu débites tes bûches, tu vois bien que le cœur de ta bûche est un bois qui a vécu. Tu vois une grosse trace noire autour, et ensuite tu retrouves du bois frais qui a repoussé autour. Donc certains arbres ont tenu et ont repoussé autour de la brûlure.
Les feux de foudre, les feux de... Il y a un tas de raisons naturelles qu'un feu se déclenche. Ils ne sont pas forcément tous dangereux. Ce n'est pas parce qu'il y a un feu qu'il faut se jeter dessus pour l'éteindre.
Et quand tu coupes les bûches, des fois, tu vois ces marques à l'intérieur de l'arbre de feu, mais c'est à l'intérieur de l'arbre. Une cicatrice sur laquelle il a pu, en tout cas ceux-là ont pu repousser, quoi.
On peut très bien le considérer comme étant une régénérescence naturelle du milieu.
Comment faut-il? Eh bien, j'ai dit, mais, comment faut-il? En allant à l'Oustau, descendant à Chalut, à Préguillen, Léon. Et, nous avons fait un pafourca, et il fait de vous passer à droite et nous passerons à gauche. Oh, père, comment pas marcher, pas si pas là. J'ai dit, oh, il y a. Dieu me charge de l'étre, il n'y a pas, non, mais on ne ferait pas rien. Alors, mettez au bord et dégagez. Alors, juste à pousser les fédères. Les fédères, ça. Ils ne l'ont pas fourqué.
En français?
Hein? Dans le parc? Dans le parc qu'on avait fait pour que les brebis viennent. On appelle, en patois, on n'appelle pas fourqué. Alors, il raconte ses brebis, il dit, mais il me manque, oh, mais il me manque, il faisait. Mais quand on manque, on manque. Quand on manque, on que si on ne s'y trompe pas, un triangle.
Et il y avait son frère qui allait me dire, et ça sûr qu'il y a eu. Et on tous les trois descendus, il est venu.
Quand j'étais enfant, les gens que j'allais voir dans les fermes, c'était le confort est extrêmement sommaire. Quoi. Il y avait l'eau à la pile dans les meilleurs des cas, sinon on allait la chercher à la fontaine qui était devant la maison.
Eh bien, là, c'est plus dépendant de la mémoire. Il y a le vieux cabanon qui avait la citerne.
Moi, je me rappelle d'énormément de fermes où on rentrait. C'était des familles qui arrivaient à vivre en autarcie et constituer la pignate avec les louis d'or à l'intérieur parce qu'ils dépensaient rien à part une paire de chaussures tous les deux ans.
Les louis pitchers sont ici de Mouma, il faut que les places pas les fanas, quoi.
Un pantalon ou autre de temps en temps, mais c'était des gens qui vivaient en autarcie.
Il n'y a pas de distraction.
La dame donc montre qu'elle dormait sur une paillasse dans un sac, dans un chambron qui était sur le côté de la cuisine. Et il nous dit, viens boire un coup, viens au moins dire bonjour à la mémé. Mais vraiment, la propreté dans la cuisine, c'était, les verres ils étaient gris.
Les commissaires encore par semaine, moi j'avais toujours pendu. Et qu'elle avait donné, on ne mangeait plus.
Plein de crasse, et puis bon, quand on a des moutons, forcément on se salit, etc. Si l'eau courante, on n'en a pas l'habitude, ben on fait la lessive tous les 6 mois. Hein.
Il n'y a pas d'électricité, pas d'algues.
Ah oui, on parle d'électricité.
Et une odeur un petit peu renfermée, et puis l'odeur des bêtes que les gens amenaient de la bergerie normale. Hein. Et il y avait même la poule malade sur la table de la cuisine.
Mon chien.
Il y a eu beaucoup de jugements négatifs par rapport à cette attitude-là. S'il n'y avait pas à manger, ben, il n'y avait pas le secours populaire qui venait leur apporter quoi que ce soit. Ils crevaient de faim et puis c'était tout. Hein. Donc, c'est des gens qui avaient l'habitude quand même d'accumuler et de prévoir des temps durs.
Ah, quand on était jeune, c'était une honte d'être paysan parce que quand on arrivait à l'école, je me souviens quand je suis arrivée à l'école à Draguignan, toutes les copines me laissaient loin parce que la campagne, c'était sale.
C'est vrai. Et puis, le peu de gens qu'on rencontrait dans le territoire, les gens locaux quoi, qui se sont accrochés à cette terre comme des poux à un chien... ce sont des gens qui ont quand même... Ils ont des qualités. Ils ont, il y a quelque chose de la ténacité, de la volonté, de la constance, de la fidélité. Des choses assez pérennes, quoi, qui se... Oui.
Alors, je pense que pour les gros mortiers, les gros obus, etc., ils sont sur une zone qui est très délimitée. Après, pour les manœuvres, et notamment à la mitraillette, là, ce que je te racontais, Ils sont là, ils sont de l'autre côté de la route, mais vraiment, l'autre jour, quand ils sont mis à tirer, tout le monde était d'accord dans le hameau pour dire qu'ils étaient de l'autre côté du hameau. De l'autre côté de la route, quoi, ils sont tout près. Et signifie que, ouais, il y a des gens qui habitent là. Justement, ils sont pas. Enfin, ils ont une zone énorme là-haut.
Pivoine officinale.
Là, sur le sud du camp, c'est la Méditerranée, quoi. Hein. C'est de l'olivier, c'est des vignes, c'est des pins d'Alepes, c'est du chêne vert, c'est.
Orge fausse-aigle.
C'est de la Provence, entre guillemets, quoi, disons.
Jonc à fruits globuleux, sératule à feuilles de chanvre d'eau, potentille inclinée.
Et au nord du camp, c'est plus de la Provence, c'est des préalpes, assez austères.
Doradille du Verdon, mâche hérisson, trèfle pâte de lièvre.
Ça peut être sec comme un coup de trique, et ici ça peut être trempé de pluie. C'est ce qui fait la diversité biologique du cœur.
Loup gris, canis lupus, lynx boréal, lynx, petit murin.
Ça, tu connais ? Exactement. Tu connais le nom en provençal en plus. La sarriette. J'adore la sarriette. Cette odeur, là, c'est fort. De toute façon, militaire ou pas, il y a toute une vie sauvage qui doit être bien tourmentée par moments, parce qu'ils doivent bien se demander ce qui se passe quand ils sont en manœuvre, mais tout ce qui est sanglier, chevreuil, tout ça, ils se régalent ici, c'est sûr.
Le chamois, les chevreuils, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a beaucoup. Moi, je me rappelle qu'il y avait quelques chèvres sauvages dans les gorges du Verdon.
Il paraît qu'il y a des biches, des cerfs, des choses bestioles comme ça là-bas. Maintenant, parce que depuis que c'est plus habité, ben, les bestioles sauvages, ils viennent vers la campagne.
Vous observez tous les jours, quoi, que ce soit chamois, mouflon. Il y a eu pendant pas mal d'années du mouflon qui est maintenant disparu avec le loup, mais...
Ces chats moitié sauvages, ils sont beaucoup. Ils sont le double des chats qu'on a là.
Comme un chien, en fait.
Un peu plus petit. Et plus trapu, d'abord.
La présence du lynx, qui n'a jamais disparu dans la région. En plein hiver, sur la neige, donc... Un animal qui s'est déplacé lentement pendant 70 mètres. Ça, voilà. Là, voilà. La queue aussi longue que le corps. La genette, c'est un mustélidé, c'est la famille du putois, de la martre, de la fouine. C'était une femelle de toute beauté, elle n'avait pas un tic, pas une puce, elle sentait bon comme un chat propre, elle était magnifique. Un beau chat, avec une queue excessivement longue.
C'est un loup, là. Hein. Regarde.
Ça a dû être mangé par
un loup. Ah ben là, ils ont cassé les croûtes, ils ont laissé les os, c'est déjà pas mal. Hein.
Alors, les derniers loups du Var, en 1903, ont été vus. Trois loups se dirigeant vers le nord.
C'est un des derniers endroits où ils ont vu les loups, là, ici. En 36, il y a les pattes, les traces du pas du loup sur la neige dans la fenêtre de la cuisine.
C'est l'année que je suis né, en 1928, qu'ils avaient tué le dernier loup à Bajorde.
Et le loup, il vient jusqu'ici ?
Il y a deux loups qui s'approchent des patous, qui les titillent, les patous ils les suivent. Eux, hop, les loups ils partent et ils attirent les 4-5 patous avec eux. Mais pendant ce temps, il y a les trois autres loups qui font la razzia dans le trou.
Mais ici c'est le pire endroit de toutes les Alpes.
Ouais.
Mais ici il y a une meute de 6-7 loups et ils nous mangent toute l'année. Quoi. L'année a pour 200 brebis par an. Tu vois le loup qui a arrêté, qui regarde les brebis en contrebas.
Quand je vais, c'est à la plus grosse forte concentration de loups.
Et puis,
maintenant, c'est pas trois loups, c'est... Il y en a au moins une centaine sur le territoire.
Ah, c'est là-bas que le loup mange.
On a trouvé des os de moutons et on a trouvé une grotte. Et ça m'a trouvé une grotte.
Camp de Canjuer, par sa surface, ça fait 35 000 hectares, donc c'est quand même un gros morceau de territoire, quoi. L'activité de l'homme, qui est l'activité militaire, est très lourde. Elle est pesante sur l'environnement au niveau sonore, au niveau des impacts, la hauteur des obus, etc. Mais globalement, elle est très discrète. Parce que sur 35 000 hectares, il n'y a pas de mitage par des villas, donc il n'y a pas de lignes électriques qui vont villas, il n'y a pas de lignes téléphoniques, il y a peu de routes, etc. Donc... En fait, les espèces sauvages sont moins impactées que dans un territoire normal où il y a une présence humaine beaucoup plus forte.
Aujourd'hui, le Canjuer de 73 commencerait à être méconnaissable pour les gens comme vos grands-parents qui y ont vécu, parce que ce Canjuer-là se couvre d'arbres, alors qu'avant c'était un immense pâturage à moutons. Donc, c'est aussi un paysage qui disparaît.
Mais c'est sûr. C'est sûr. La nature vous le dit. S'il y avait eu les mêmes bêtes, il n'y aurait pas eu cette poussée de pins, de
saloperies,
de buis,
de buissons.
Mais tout le reste, c'était propre. Donc, c'était maqué.
C'est vrai ça. Il y avait encore des prés, que maintenant, il n'y a plus que des campas, des landes.
Il n'y a rien de naturel, là. Le moindre bout de champ, le moindre morceau de plat, c'est des décennies de gens qui se sont arrêtés pour le faire plat, quoi. Il n'y a rien de naturel.
Alors ça, c'est des iris sauvages, toutes petites. Très belles, violettes, magnifiques quand elles fleurissent. Ça, c'est des pierres qui ont été mises de côté pour faire pousser l'herbe, pour faire pâturer. À l'époque, ils ramassaient des pierres toute la journée. Hein. Aujourd'hui, il y a peu de monde qui ramasse des pierres. Et ça me fait toujours un truc. Parce que je me dis vraiment, on n'aura jamais la capacité ou la force ou la motivation de remonter ces murs comme ils l'ont fait à cette époque. Ça, c'est certain.
Sur Canjuer, de manière très nette, la nature va reprendre ses droits. En quelques siècles, ça pourra redevenir quelque chose d'aspect naturel. Mais c'est très, 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 très marqué par l'histoire humaine, quoi. En fait, le paysage, c'est quelque chose qui est façonné, quoi. Façonné par l'homme, mais sans moyens. Par l'homme lui-même, quoi, avec ses doigts, ses ongles, et sa force physique pour empiler des pierres pendant des siècles. Et ça, c'est nos racines, c'est nos vraies racines, quoi, je pense.
Où il s'entraîne pour avant l'Afghanistan. C'est une copie de ce qu'ils font en Afghanistan ou dans des pays
dans des pays d'Orient. Vous avez vu, les murs, c'est des...
Avril 2018.
Barbelé, tout.
Expulsion à Notre-Dame-des-Landes.
C'est impressionnant, quand même.
À Régus, au soleil.
L'entrée avec les sacs de sable.
Les militaires bivouaquent sur le terrain de sport. En contrebas du parking du supermarché. Dans les rayons, je les croise.
Les murs, c'est un textile qui est dans le milieu de la terre.
Un paquet de pâtes à la main.
Oui, ça. Vous pouvez tirer dessus, la pâte.
Maquette, grandeur, nature, du champ de bataille proche et oriental. Parfois, je pense, c'est la moindre des choses, c'est ma misérable façon d'être solidaire avec les peuples décimés par nos armes.
Regardez comme c'est de la roche. C'est le paysage.
Alors, je sais que notre pays est en guerre.
Les choix, ils sont dans le centre, ce centre de droit. C'est pas comme on avait vu l'Algérie pour les entraînements. Qu'est-ce qu'il ferait le moins de remous si on est scolarisé? C'est une table.
Avec une pierre comme ça, ça s'est fait une plus sale.
Ah oui, de la salive.
Le camp là,
oui.
C'est un camp d'entraînement.
Oui, oui. Pour se préparer à la guerre en Afghanistan, ça va être comme ça là-bas, peut-être.
Bien sûr.
Et je vois qu'il y a un figuier quand même, hein. Donc ça devait être moins froid que vous étiez vous. Hein. Là, c'est plus méridional.
Tandis que nous, là, c'était. Ben, il pelait. Hein, c'était...
Oh là.
Quand je gère, j'ai pas la FL.
Je dis, c'est une vastitude. Tu avances, tu as cette impression de vaste. C'est vaste. Puis c'est immense. Je comprends que les gens qui étaient là, ben, ils se disaient même si on m'a expropris, où je vais retrouver tant d'espace. L'espace, tu n'achètes pas.
Maintenant, on entre dans le désert d'un haut plateau à l'altitude moyenne de 1000 mètres sur 40 km de long et 15 km de large. C'est le grand plan de Cangers.
Forcément, le camp, c'est quand même un vaste désert, quoi. Et... toujours choisi de rester là parce que je me suis dit, il n'y a pas d'endroit où tu peux être mieux que là, quoi.
Rien de plus corrosif pour le moderne que ce haut lieu. Le poumon devient un appareil de connaissance. Il goûte l'âpreté des glaciers, il assimile les espaces vierges, il respire enfin autre chose que ses résidus et les laisser pour compte.
Un cosse, vraiment un cosse, semblable au cosse des Larzac. Un froid hivernal terrible. C'est l'endroit où... Moi, c'est l'endroit où j'ai eu le plus froid, c'est dans le Grand Plan, quoi. Et puis, il fait très chaud l'été, excessivement froid l'hiver. C'est en plein vent. C'est vraiment une impression d'austérité, quoi. Moutonnements de rochers affleurants avec des touffes d'herbe entre et puis quelques pins qui poussent à droite à gauche.
Cangers, c'est quand même, malgré toutes les superstructures, les champs de tir, etc., c'est un endroit où demeure certainement cette ambiance qu'il y a eu jusque dans les années 70. Parce que, oui, il y a le bruit, il y a le bruit du canon, il y a des chars qui passent parfois, etc., mais une très grande partie de l'année, c'est le silence. Et aussi, on peut entendre des moutons, puisqu'il y a des bergers qui font paître. C'est un endroit où quand même se perpétue l'ambiance sonore d'un pays qui n'existe plus.
C'est vrai que c'est des endroits qui donnent... comment dire... qui facilite le fait de faire abstraction du moderne, oui. Complètement. On a l'impression qu'il y a une espèce de chape atavique, là, de chape historique, très forte, oui, oui. Mais à partir du moment où la vie humaine est plus difficile, physiquement, quoi, Je pense qu'on le ressent plus facilement qu'ailleurs. Dans l'âpreté, il y a des choses qu'on peut continuer à ressentir pendant beaucoup plus longtemps, je crois. Je crois qu'on a tous des racines, quoi, qui sont dans la terre, oui. Oui. C'est des endroits forts pour ça. Des endroits où on le ressent encore. Plus que dans une plaine agricole de la Bosse, même si on y trouve un bâtiment de 12 siècles, on n'aura pas cette impression-là. Peut-être que le secret, c'est ce qu'on n'y trouve pas, justement. Tout ce qui nous embarrasse, qui nous encombre ailleurs, et qu'on ne trouve pas là.
Cangers, territoire interdit. Avec Vincent, Francis, Hubert, Yvette, Annie, André, Maurice, Fernand, Thierry, Nelly, Alice et Liliane. Composition de musique originale, Paul Ramage, avec Joris Rull à la clarinette et Pierre Cussac à l'accordéon. Poème 2 élu par Dorothée Volute. Prise de son Yann Frécy. Mixage Mathieu Leroux. Attaché d'émission Inès Duperron et Aogui Chichkoyan. Productrice coordinatrice Irène Omelianenko.